27e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de l'émission La Photo Média sur les ondes de choc.ca en direct avec votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir, autour de la table, nous avons Charles Lemieux, Isabelle, mon Dieu,
ouais, salut.
Chénier, ouais. Excusez-moi, notre stagiaire. D'habitude, je la présente en tant que notre stagiaire, maintenant ouais. Elle a un nom, donc ouais. Désolé, ouais. Ainsi que Marie Chabot-Johnson.
Bravo, Blanc.
À la technique, on a aussi Camila Rodriguez avec nous aujourd'hui. Donc, le thème de l'émission cette semaine, ça va être le populisme. Le populisme, en fait.
Ouais, j'avoue.
Donc, on ouais. va tout de suite se diriger vers Charles. Alors, Charles, aujourd'hui, tu vas nous parler de populisme, mais plutôt de radicalisation aussi.
Ouais, ouais.
Mais qui
ouais.
se passe chez nous ici, au Québec.
Exact, certainement. Bon, je vous parlerai pas, par exemple, des jeunes du cégep de Maisonneuve qui créaient la confusion dans les coins d'école, qui souhaitaient partir pour fuir, aller faire le djihad en Syrie. Non, non, je vais vous parler du groupe à l'icône de loup de Éric Corvoux, La Meute. Éric Corvoux, qui utilise évidemment un faux nom, il y a personne qui s'appelle Corvoux comme nom de famille, c'est un peu bizarre, est un ancien militaire des Forces canadiennes. Il est membre de La Meute.
Es-tu vraiment moins bizarre que le mieux?
Ben là, c'est pas ça le débat, c'est pas ça le débat aujourd'hui.
Continue, excuse-moi.
Je vais revenir à ma chronique. Alors, celui-ci et les membres de La Meute ont une peur folle de voir l'islam prendre de l'importance au Québec et au Canada. Ça se constate dans leur description de groupe qui, selon la presse, va comme suit. La Meute sert à réunir ceux qui sont inquiets face à l'envahisseur islamique qui avance sournoisement sur nos terres et qui gravite tranquillement à travers la sphère politique. Il est impératif que notre génération se lève avant que nos enfants et petits-enfants deviennent victimes de notre inaction face à l'islam pour des siècles et des siècles.
Amen.
Amen. Voilà. je me disais aussi que ça sonnait comme un peu amen, ma femme. Bon. Pour l'instant, La Meute n'est qu'un groupe Facebook. N'allez pas faire de recherche. Ceux-ci sont introuvables sur les réseaux sociaux, à moins d'être invité par quelqu'un qui est déjà membre. Mais bon, la liberté d'expression et tout, ils ont le droit à leur opinion. En plus, c'est en privé. Mais en attendant, je leur suggère vivement de lâcher TVA Nouvelles pour un moment. Ça va un petit peu les calmer.
Charles, dis-nous donc, depuis quand c'est dangereux un groupe Facebook?
Ouais. Jusque-là, je suis d'accord avec toi, Emilien. Il n'y a rien de plus inoffensif que des dudes qui jasent à quel point ils n'aiment pas les maudits islamistes sur un petit groupe Facebook. Le problème, c'est que ce groupe prend pas mal d'importance. Selon un article de la presse qui date de la semaine passée, le 7 mai, 42 000 personnes seraient en ce moment membres de La Meute. C'est 126 fois plus que le nombre de likes sur notre page Facebook.
C'est très, très inquiétant.
Allez liker notre page Facebook, s'il vous plaît.
On vous en conjure.
Bon, puis en plus, ils sont pas mal organisés. Premièrement, ils ont le conseil, qui est comme l'instance suprême, qui est supposée être l'élite de La Meute. C'est eux qui prennent toutes les décisions. Ensuite, il y a les portiers, c'est ceux qui valident s'il y a des nouveaux membres. Ils font des fouilles complètes sur les profils Facebook des gens. C'est fait évidemment dans le but d'empêcher les individus qui pensent différemment d'eux d'accéder au groupe. Faudrait pas que les maudits gauchistes entrent dans la meute pour l'espionner, hein?
Les Ucamiens, gratteux de guitare, carré rouge.
Eh oui. Évidemment, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrus et surtout pas de division et surtout pas de débat, il y a la garde qui est chargée de la discipline interne de ce groupe. Parce que certainement, comme tout bon groupe formé par un militaire, l'importance dans la meute, c'est d'être discipliné et d'écouter ses supérieurs. Point final.
Point
je croyais que tu voulais intervenir, Camilla. J'ai vu beaucoup de signes de main. Je vais continuer.
Laisse-toi pas distraire par Camilla.
Et finalement, il y a diverses petites cellules. La cellule logistique qui organise et encore les événements. La cellule Guy qui se charge de l'information du groupe. La cellule médicale qui sera active durant les événements et qui servira en cas de malaise, etc., etc. Bon, le problème, c'est que Éric Corvoux a fait l'annonce la semaine passée sur les médias sociaux. La meute est devenue officiellement une OSBL, un organisme sans but lucratif. Statut leur permettra de récolter des dons qui serviront à payer des frais juridiques, un local permanent et autre chose.
Ça, c'est révoltant.
Oui. Hey, encore une fois, inutile de chercher la meute dans la liste des OSBL du Québec. Ceux-ci ont utilisé un autre nom pour protéger leurs membres. Selon la presse, la meute souhaiterait également lancer une campagne contre les produits halal, de continuer à s'opposer à la venue des réfugiés syriens qu'elle aurait qualifié de cheval de Troie, rien de moins.
Mais oui, les invasions barbares, tout le monde le sait.
C'est pas facile. Et finalement, de se battre contre le projet de loi 59 qui vise à interdire les discours haineux. Et évidemment, leur statut d'OSBL leur donne leur donne beaucoup de pouvoir sur la place publique et une certaine légitimité. Légitimité qui peut être dangereuse, surtout lorsque le groupe ne met pas de côté l'idée de former une milice armée pour combattre l'islam en sol québécois.
Des fous furieux, donc, en conclusion.
C'est pas facile.
Merci beaucoup, Charles.
Ça fait plaisir.
Donc maintenant, on se dirige vers Marie. On va un peu approfondir c'est quoi le concept de populisme, mais tu vas nous faire ça un peu sous forme de quiz.
Oui, en fait, en faisant des recherches pour me trouver un sujet marqué populisme, je tombais sur tellement de faits différents et de pays différents que j'avais de la misère à choisir. J'étais un peu devant une page blanche, donc j'ai pris ta suggestion. On va faire ça ludique, on est l'été.
Hey,
ben oui.
Hey, désolée, je suis encore un petit peu flabbergastée de la meute. Là. Ça me perturbe. Là.
Ouais. Ça nous perturbe tous.
Ça existe. Ouais.
Donc ça, aujourd'hui, on va faire un petit quiz sur le populisme. Donc, on ne va pas revenir dans tous les détails théoriques. Là, on est à l'université, mais pas vraiment. Donc, moi, je suis en session d'été. J'ai pas le goût de me taper des grosses lectures. Et on a un magnifique prix que je peux dévoiler à l'instant et que je peux avoir un roulement de tambour. Un cupcake à moitié écrasé par ma raide de vélo, qui est au Oreo. Puis j'en ai déjà mangé, testé, c'est bon. Mais pas dans celui-là, il est complet.
Une chance.
Oui, ben, une chance quand même. Je suis pas tant de microbes. Et vous avez tous des buzzers. Faites-moi les entendre, on va les tester.
Moi, j'ai comme une castagnette en forme de petite coccinelle. C'est vraiment génial.
Je t'ai donné lui qui était le moins bruyant, parce que je me disais que tu allais comprendre l'espace quand même. Donc, je t'ai donné la petite maracasse à Isabelle et le pot rempli de sel noir à Charles.
C'est génial.
Tu as à peu près 50 cents dedans.
Oh my God, nice.
C'est riche.
Oh, là, je viens de me rendre compte qu'en tant qu'animateur, j'ai les réponses devant moi. Fait que j'ai caché les feuilles, je les ai plus, les réponses.
OK, là, je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être le juge?
Mais moi,
Émilien, comme... Moi, j'ai pas vu les réponses.
Mais pour avoir... souci de transparence, je demande un changement.
Ah, yes!
Échangeons. Camilla, veux-tu venir en studio et Émilien s'en va à la régie?
Je pense qu'on peut garder nos places.
Oui,
mais
ça va être
mieux comme ça.
Ouais. Donc, tu vas nous faire un signe distinctif pour qu'on se rende compte. Juge Émilien, tu diras qui répond en premier.
Ça
donc,
marche.
Commençons tout de suite. La question la plus simple, le populisme, c'est quoi? Choix de réponse.
Juste une question, Camilla, comment tu vas faire pour...
Je pourrais faire un cri aigu.
Elle va taper des mains.
OK, c'est bon.
Ouais, non, taper des mains serait peut-être un petit peu moins...
OK, on peut faire ça aussi.
Les cris aigus, t'es garderas chez toi. le populisme, c'est quoi? A, une marque de lait en poudre. Une idéologie qui fait la promotion du retour du peuple au pouvoir. C, un style de politique xénophobe. Ou D, le qualificatif méchant que les médias utilisent quand un politicien ne les aime pas.
Oh, je pense que c'était Isabelle.
Ouais, je pense que c'est B.
Une idéologie qui fait la promotion du retour au peuple. Ooh. Oui, en fait... et une question bonnie. Ooh. Donner à tour de rôle un nom d'un policier associé au populisme.
Oh, j'ai une idée.
Okay. À tour de rôle, chacun
son tour. T'as pas les mains.
Ben, le plus que vous pouvez. Je vous dis ça.
Allez, go.
Ben, Monsieur Coderre.
Bernie Sanders.
Hugo Chavez.
Régis. Ça compte-tu?
Ouais.
Ben oui,
vous
Régis,
êtes tous des
oui.
bonnes réponses. Vous êtes tous okay.
Oh my
God. Yes.
On est tous des gagnants ici.
Qui compte les points?
C'est moi, c'est le juge.
Un crayon, ça va? Oui.
Ça va, okay. Ça va.
On compte définitivement pas les points.
C'est crayon, en fait.
Alors. Cette émission s'en va n'importe où.
Donc, juste une explication. Donc, ouais, pour pas mélanger le populisme avec l'extrémisme de droite ou de gauche, c'est quand même... Souvent, on associe beaucoup les deux parce que les partis d'extrême droite, d'extrême gauche utilisent beaucoup le populisme, mais en fait, ça reste quand même deux choses différentes. Le populisme, c'est d'essayer de s'adresser au peuple. On l'associe à des personnalités, des partis, mais... Le but vraiment, c'est de retourner à la base. Leur idée fondamentale, c'est que les sociétés sont gouvernées par une élite qui est déconnectée du peuple et ils veulent essayer de reconnecter avec le peuple pour vraiment refaire jaillir les enjeux de la société. Sauf qu'on sait que c'est quand même instrumentalisé jusqu'à un certain point pour faire passer des messages xénophobes dans certains cas ou d'extrême droite, d'extrême gauche pour faire avancer des sujets, attiser la haine, faire déplacer les masses. Donc, faut quand même pas mélanger les deux. C'est pas un synonyme, c'est juste une caractéristique. Continuons. Le terme populiste est né dans les années 2000 avec l'avènement des nouvelles technologies. Vrai ou faux?
J'ai trouvé un son de buzzer
incroyable.
Sur Internet.
Mais je pense que Charles avait agité un petit peu
mais
son...
J'ai pas claqué les mains avant.
Son ouais. Poutine.
Moi, ouais, je dirais que c'est faux.
C'est en effet, c'est faux. Yes! On peut le retrouver jusque dans les années du 18e siècle. Par exemple, Napoléon utilisait le populisme parce qu'il combattait, même s'il a été un empereur, dictateur et tout le kit, il a utilisé la population qui était quand même pour lui à un certain moment contre la monarchie et le retour de la monarchie. Donc, un des premiers populistes au 18e siècle. Et une autre réponse que vous devriez savoir, les amis, parce que j'en ai parlé assidûment dans la réponse précédente, sur l'axe politique, le populisme est-il de gauche ou de droite?
Ah, je pense que c'est Camille en régie.
Aucun.
Aucun des deux.
Charles, exactement. Vous avez moins un point pour avoir répondu quand je ne vous ai yes! pas donné la parole.
C'est vrai, non, hein? C'est vrai, tu devrais pas essayer de prendre la place de Camille, Charles.
OK. Ouais, je croyais qu'on allait dire en même temps puis avoir des points bonus. Pour aucune raison.
Bon, on laissera Émilie le soin de juger. Donc oui, le populisme, c'est une technique plus qu'autre chose. C'est faire un appel au peuple, langage populaire, vulgariser à outrance ou des fois faire des raccourcis idéologiques ou de la simplification. Donc ça peut être autant utilisé à gauche qu'à droite. En ce moment, aux États-Unis, on le voit beaucoup avec Donald Trump à droite et avec Bernie Sanders à gauche. Donc il n'y a pas d'idéologie au populisme. Et dernière question. Ah non, même pas dernière question. Ah, dernière. Quand Donald Trump dit qu'on devrait construire un mur pour empêcher les musulmans et les Mexicains d'arriver aux États-Unis, est-ce que c'est du populisme?
Mon Dieu.
Charles.
Ben, pas nécessairement, parce que en tant que tel, dire de construire un mur, c'est pas du populisme, c'est utiliser le pouvoir de l'État. Puis vas-y, Camilla.
moi, je dirais que oui, parce que... Tu voulais-tu un parce que?
Ben, si tu veux, faire une réponse à développement.
Oui, je dirais que oui, parce que ça va chercher qu'est-ce qu'il y a de plus laid chez l'être humain. ça va chercher le petit racisme.
Mais c'est pas ça la
racisme.
Définition du populisme, madame?
Ben, la définition du populisme, est-ce que c'est pas d'aller rallier les foules, les masses?
Bon point.
Mais ça utilise une crainte de la population américaine pour s'en faire...
Mais j'aime votre nuance d'universitaire. au début, ma réponse était non, en fait, parce que c'est pas nécessaire. La mesure en tant que telle, si tu la regardes, c'est pas nécessairement une mesure de populiste qui attaque les élites ou qui fait rallier au peuple.
C'est vrai,
mais oui, ça peut jouer sur l'appel à la haine, ça peut faire la critique, puis ça peut faire aussi rappel que le système politique américain est pas pour la population générale, puis avoir des immigrants qui vont les envahir. Mais en tant que tel, on pourrait voir plus le populisme dans des commentaires, comme pour dire que les politiciens sont tous des incompétents, dire que quand t'as de l'expérience politique, c'est parce que t'es un fraudeur. Ou encore, des fois, quand on regarde Bernie Sanders qui critique Hillary Clinton et l'establishment qui est financé par des multimilliardaires ou de Wall Street, comme il dirait, mais ça, c'est vraiment un message qui attaque la classe politique en disant qu'elle est déconnectée du peuple. Donc ça, c'est vraiment une phrase qu'on pourrait caractériser de populiste. Encore plus. Mais oui, en effet, construire un mur, c'est pas nécessairement une mesure qui est très logique.
Voilà.
Et dernière question pour de vrai cette fois-ci. On va pouvoir départir les points. J'en ai aucune idée qui gagne à date.
Que
mais
je, pense
bon.
Que, je pense que je m'en ligne pas pire. Là.
Oui, je pense aussi.
Ouais, ouais.
Je
pense que... tu sais parler. Attends. Donc, parmi les raisons suivantes, qu'est-ce qui n'explique pas la montée du populisme? A. La crise économique de 2008. B. La création de l'Union européenne. C. La montée des attentats islamistes à l'international, comme par exemple les attentats de Paris. D. La concentration des médias. E. Les changements climatiques. F. La crise des réfugiés. Ou G. Mon le Dieu. Néocolonialisme américain et occidental dans les pays du Sud.
Tu sais me parler, Marie.
On dirait que je suis dans mes examens de biochimie.
Faut ajouter les maracas, faut ajouter les maracas.
Attends, peux-tu recommencer, s'il te plaît,
rapidement? Oui, okay. On a A. La crise économique de 2008. B. La création de l'Union européenne. C. La montée des attentats islamistes à l'international. D. La concentration dans les médias. E. Les changements climatiques. F. La crise des réfugiés. Ou G. Le néocolonialisme américain.
Ben, je dirais la concentration des médias.
Un choix de réplique, un droit de réplique à
Isabelle.
Isabelle.
J'aurais tendance à dire changement climatique. Changement climatique.
OK. J'aime que tu essaies de voir la réponse dans ton visage. Mais j'ai presque pouffé de rire en disant changement climatique tantôt. Je me cherchais vraiment quelque chose.
Mais comme c'est vrai que ça semble ridicule comme idée, mais c'est qu'en fait, tout ce que tu as nommé, c'est des sujets qui peuvent être utilisés par les populistes. Ouais.
Donc, il y avait presque une petite colle avec changement climatique.
Ouais.
Justement, pendant que notre juge Émilien compte les points, je vais vous faire une petite explication un peu pour restituer les points. Donc, Émilien compte les points et donne-nous un gagnant. Donc, ouais, si on en regarde toutes les raisons que j'ai évoquées, comme la crise économique ou la création de l'Union européenne, tout ça, on peut voir qu'il y a eu certains événements dans la société ces derniers temps qui ont créé encore plus de justice sociale. On l'a vu particulièrement aux États-Unis, creuser un fossé. Et souvent, quand on est dans une situation de pauvreté, on va finir par constater que le système politique ou de la société ne fonctionne pas vraiment pour nous. Donc, nos dirigeants ne nous aident pas et ne comprennent pas notre situation. Donc ça fait que ces personnes sont de plus en plus susceptibles de tomber dans le populisme parce que ça peut être le fun, en fait, d'avoir des politiciens qui écoutent plus nos revendications quand on ne se sent pas écouté par nos élites. Même chose pour les attentats de Paris ou les attentats qu'il y a aussi à Copenhague. On a vu une augmentation du populisme en France et au Danemark à la suite de ça parce que ça crée un sentiment d'insécurité physique et on pense que nos élites sont pas là pour nous protéger ou les gouvernements. Donc, on finit par se rallier à des partis beaucoup plus populistes. Donc, la peur finit par faire un certain repli sur soi.
Oui, Charles. Ou on finit par se joindre à des groupes Facebook qui promouvoient des milices armées. Ooh. Continue.
Oui, donc ça serait pas nécessairement mieux d'avoir des groupes armés. Mais c'est un peu populiste aussi, hein, quand même aussi. Puis le dernier point sur le néocolonialisme américain, on peut penser aussi, on peut faire trop de raccourcis courts, mais quand en Amérique latine, il y avait beaucoup de colonialisme américain, entre autres, et pour unir le peuple, il y a beaucoup de partis politiques populistes qui ont fini par rallier la population pour vraiment essayer de mettre un peu les Américains dehors. Donc on peut voir que le populisme n'a pas nécessairement des mauvaises conséquences ou des bonnes conséquences, ça dépend juste comment il est utilisé. Parce que si c'est utilisé pour vraiment faire des mesures positives que le peuple veut mettre en place, ça peut être quelque chose de bien. Mais si on est là pour faire appel à la haine, ça peut être quelque chose de plus négatif.
Sur ces paroles très sages, merci beaucoup Marie pour cette superbe, ce super tour d'horizon du populisme de façon très très ludique. Les résultats après la pause musicale.
On n'a comme pas le temps. Ouais. Ben, on pourrait.
Down the street.
De retour à la photomédia sur les ondes de choc.ca. Vous êtes toujours avec nous. Vous venez d'entendre Dopamine de D.I.I.V. sur leur album Is The Is R. Un drôle de nom d'album, je dois dire. Mais maintenant, on va avoir les résultats tant attendus du superbe quiz en deuxième partie d'émission. Donc, roulement de tambour, roulement de tambour. Donc, c'est véritablement pas arrangé avec le gars des vues ou de l'audition, vu qu'on est en onde. Mais c'est une égalité complète. 2 points
communisme
pour Isabelle.
De cupcake. Incroyable!
2 points pour Charles et 2 points pour Camilla. Il va falloir se le partager. Les gauchistes égalitaristes de l'UQAM frappent encore.
Non, mais c'est parce que vous devez savoir que j'ai eu plus de points, mais je me suis saboté volontairement pour qu'on aille toutes du cupcake. Je suis tellement une bonne personne. Bye!
Bon, bien... Après ce super résultat tant attendu, et maintenant on va pouvoir se régaler avec le super cupcake de Marie, mais il nous reste une chronique, la chronique d'Isabelle, qui va nous parler du Donald Trump, mais des Philippines.
Oh my God!
Il y en a un comme ça aussi là-bas.
Oui, tout à fait, mais avant de commencer, je tiens à dire que mon micro sent l'après-rasage. Merci aux garçons précédents. Et bon, alors lundi passé, les amis, Rodrigo Duterte, ou Duterte, a été élu à titre de président des Philippines. L'homme au franc-parler a récolté environ 39 % des votes. En vertu du système électoral philippin, un candidat qui arrive en tête sans nécessairement obtenir une majorité absolue remporte les élections. Plusieurs électeurs notent que Duterte représente un véritable changement dans le pays d'Asie du Sud-Est. En effet, presque l'entièreté des Philippines, oui, est gouvernée depuis des décennies, mon Dieu, par des dynasties familiales. Bon, il semble que les électeurs aient exprimé un certain ressentiment à l'endroit de cette élite, en effet, populiste. En tout cas, bon, parenthèse. En effet, ceci a fait bien peu pour réduire le taux d'extrême pauvreté aux Philippines, touchant 25 % de la population depuis 20 ans. À contrario, la réputation d'homme d'action attribuée à Duterte explique peut-être sa grande popularité au sein du pays.
Mais qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau président des Philippines?
Eh bien, Émilien, je vais te dire ça. Cela fait 30 ans que Duterte travaille dans les services publics. Avant d'être membre du Congrès, il a d'abord travaillé à titre d'avocat, puis de procureur. Sa notoriété s'est particulièrement construite depuis qu'il a été maire de Davao pendant 22 ans en tout. Durant son règne, il a réussi à faire changer la réputation de cette troisième plus grande ville des Philippines, décrite comme véritable nid de la criminalité, à une des destinations les plus sécuritaires d'Asie du Sud-Est par les agences touristiques. Ces méthodes peu conventionnelles afin de réduire le taux de criminalité à Davao ont par contre été sujettes à de nombreuses critiques au niveau international. Amnesty International a affirmé que Duterte était responsable de l'exécution extrajudiciaire par des dead squads de près de 700 prétendus criminels de la ville. À sa défense, Duterte, surnommé de Punisher, a corrigé le nombre à 1700.
Bon, donc on voit qu'il a pas peur de s'afficher en public. Donc c'est ses réussites, mais par ses moyens peu orthodoxes. Mm-hmm. Lors de la campagne électorale, Duterte a joué en grande partie sur la promesse de sécurité pour gagner des votes, justement.
Oui, en fait, sa campagne électorale s'est basée sur le principe de tolérance zéro lorsque vient le temps de parler de criminalité. Duterte a promis des actions rapides et efficaces afin d'enrayer la délinquance. Admettons qu'avec Duterte, l'adage « la fin justifie les moyens » prend pas mal tout son sens. L'ex-maire de Davao prévoit de nombreuses politiques comme l'instauration du couvre-feu à 22 heures pour les mineurs non accompagnés, l'interdiction de la consommation d'alcool dans les endroits publics après 1h du matin, l'interdiction de fumer dans les endroits publics, ça je suis quand même down, et un couvre-feu établi à 21h pour les karaokés assez bruyants. Bon, pour cette dernière mesure, Duterte explique que les citoyens doivent dormir, tout simplement.
Évidemment, c'est une évidence.
Merci de prendre soin des citoyens.
Mais le pire, c'est que c'est vrai que les karaokés sont assez bruyants là-bas, puis ils trippent sur le karaoké.
J'ai entendu, j'ai lu la chanson, mon Dieu, de Frank Sinatra, My Way. Tu peux pas la chanter dans un karaoké. En tout cas, ça a créé une grosse bataille, puis il y a du monde qui se fait tuer par dizaines, je pense, dans un
karaoké. À cause de Frank Sinatra.
À cause de Frank Sinatra.
Mon Dieu.
C'est Frank Sinatra.
Ouais.
Quand il chantait New York, New York, il savait pas qu'il allait...
C'est pas Frank Sinatra, ça, me semble.
Oui, c'est Frank Sinatra.
New York, New York, c'est pas Lisa Minnelli.
Ah, ben peut-être, je sais pas. Peut-être c'est un cover par Frank Sinatra.
Mais je pense que c'est une chanson sur New York.
On fera notre chronique là-dessus.
On fera nos recherches.
Donc, mais au niveau international, Duterte s'est plutôt fait connaître par des affirmations controversées, un peu comme The Donald.
Oui.
Plutôt que pour ses idées de rétablir la paix et la sécurité au sein du territoire philippin.
Oui, en effet, par exemple, ce dernier se revendique lui-même comme dictateur. Bon, il est quand même...
C'est le fun. Ouais, c'est transparent.
Oui, c'est ça. Dans son dernier rallye à Mané, Duterte a promis de tuer 100 000 criminels. Je cite... Oubliez les lois sur la charte des droits humains. Si je suis élu, je vais faire comme lorsque j'étais maire. Vous, revendeurs de drogue, voleurs et bon à rien, vous êtes mieux de vous barrer car je vais vous tuer. Tout de même sympathique. Il a aussi blagué sur le viol collectif d'une missionnaire australienne en disant qu'il aurait aimé être le premier à la violer. Ouais, il ne s'est pas non plus privé d'insulter le pape lors d'une visite en janvier 2015. Il a accusé le pape d'avoir créé des embouteillages monstres et l'a qualifié ouvertement de fils de pute. Il est à noter que 80% des habitants de l'archipel sont des fervents catholiques. Ses parents n'ont pourtant pas empêché Rodrigo Duterte de remporter l'élection présidentielle. Permettez-moi de dire, il est grand le mystère de la foi.
Ou de mon foie.
Oui, c'est ça.
C'est selon.
Puis le nouveau président ne s'empêche pas non plus de parler de son sexe, de ses nombreuses maîtresses et de l'efficacité du Viagra sur son kiki.
Ouf.
On comprend maintenant l'association avec Donald Trump.
Ouais.
C'est ça. Mais comme on l'a mentionné plus tôt rapidement, ce genre de propos lui a valu quelques rapprochements, donc, avec Donald.
Ouais, les deux sont connus pour leur opinion, disons, douteuse, leur campagne populiste et controversée. Toutefois, contrairement au Donald, Rodrigo possède l'appui relatif de la société philippine. De plus, avec Rodrigo, what you see is what you get. Il est possible d'avoir un portrait assez juste d'une société gouvernée par Duterte. Avec Trump, c'est beaucoup plus fou. Flou. Mais aussi, j'ai lu, pour conclure très rapidement, j'ai lu dans le Times hier qu'apparemment, Duterte supporterait les droits à la communauté LGBT dans une nation catholique, ce qui est tout de même étonnant. En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre.
C'est étonnant.
Oui, c'est ça. Qui est en faveur des minorités comme les Moros musulmans, qui sont non chrétiens. Puis, il y a l'appui de grandes personnalités féministes et activistes, en tout cas. Si, dernièrement, là, vite, là, je sais que je fais ma je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais en tout cas, allez voir John Elveux, une vidéo sur YouTube sur Roberto Duterte. C'est quand même drôle.
On publiera ça sur Facebook.
Oui, ouais, ben on ira le voir pour sûr. Donc, je vais conclure l'émission. C'est tout le temps qu'on avait. Je remercie encore mes chroniqueurs Charles Lemieux, Isabelle Chénier ainsi que Marie Chabot-Johnson, Camilla Rodriguez-Séa à la technique et Émilien Roscanou à l'animation. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit jeudi prochain, même heure, même poste. Et on se laisse avec Poisson Lune de La Souterraine.